Bien, on fait de la bibliologie ce soir et on était resté la dernière fois sur la question de l'écriture et écrit. Comment écrivait-on, sur quoi écrivait-on à l'époque de la Bible? Et il nous reste peu de choses à voir sur cette question-là, mais tout d'abord, ce que sont les inscriptions hébraïques que nous avons de l'époque biblique en dehors de la Bible? Il y a, de l'époque de la Bible elle-même, un certain nombre d'inscriptions hébraïques qui nous sont parvenues. Peu, pour une raison très simple, c'est que les matériaux sur lesquels on écrivait ne pouvaient pas être conservés, à cause du temps, etc. Bois, parchemin, papyrus, etc. C'était évidemment des matériaux qui se détérioraient rapidement. Donc, il y a peu d'inscriptions qui nous ont été transmises, vu que celles qui nous sont parvenues, c'était simplement des inscriptions qui étaient sur des matériaux non périssables. Alors, dans l'ordre chronologique, je vais évoquer les principales inscriptions qu'on a découvertes. Les plus anciennes inscriptions sont des têtes de flèches qui ont été découvertes dans la région de Bethléem, qui datent de la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui sont écrites en proto-cananéen, c'est-à-dire l'alphabet primitif dont nous avons parlé, et qui se trouvaient donc être des malédictions à l'endroit des ennemis auxquels on destinait ces flèches. Bon, il y a deux autres têtes de flèches du même ordre qu'on a découvertes en Philistie, et qui elles aussi sont écrites dans ce même idiome. La deuxième inscription, qui date, elle, du Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez, de l'époque de Salomon, est ce qu'on appelle le calendrier de Gezer. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus célèbre. C'est une inscription qui se trouve écrite sur une plaque d'argile et qui... sur une plaque d'argile, sur un ostracon, on appelle ça, et qui... évoque, si vous voulez, les différents travaux des champs, les différents travaux agricoles à effectuer chaque mois de l'année. C'est un exercice scolaire, c'est un écolier, n'est-ce pas, de l'époque de Salomon qui a fait ce devoir. On lui avait demandé, la question qu'il devait traiter, c'était justement ça. Quels sont les travaux à effectuer pour chacun des 12 mois de l'année? Et c'est très intéressant de noter que des jeunes, n'est-ce pas, des enfants ou des jeunes savaient écrire à l'époque de Salomon et avaient donc quand même une culture qui, pour l'époque, n'était pas une culture particulièrement négligeable. Nous avons ensuite de Samarie, du 8e siècle avant Jésus-Christ, une stèle monumentale, ce qui fait qu'elle a pu être conservée, qui comprend un certain nombre d'inscriptions, qui semble avoir été originaire, finalement, écrite par des gens qui étaient originaires de la tribu d'Acher. Ensuite, nous avons la fameuse inscription de Siloé. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Cette inscription de Siloé se trouve à l'heure actuelle au musée du Louvre. Elle a été découverte au siècle dernier par un consul français qui était en poste à Jérusalem, qui s'appelait Clermont-Ganneau, et qui a été trouvé, comme son nom l'indique, dans le tunnel de Siloé. On en a déjà parlé, j'y reviens simplement. Le tunnel de Siloé est un tunnel qui, selon ce qu'on lit dans le livre des rois, a été creusé par le roi Ézéchias dans la perspective du siège assyrien qui se profilait par le roi Sanhérive. Et le but de ce tunnel était de faire en sorte que l'eau de la fontaine de Gihon, qui se trouvait du côté est, si vous voulez, de la colline de Sion, soit emmenée à l'intérieur de la ville, de sorte que pendant le siège, la ville ne manque pas d'eau et que les Assyriens ne bloquent pas le seul point d'eau qui permettait le ravitaillement en eau de Jérusalem. Donc, si vous voulez, on bouchait l'accès du côté est de la fontaine, et par contre, on dérivait cette fontaine à l'intérieur d'un bassin, qui est le bassin de Siloé, d'où le nom d'inscription de Siloé, qui existait à l'époque du deuxième temps, puisque Jésus y avait envoyé l'aveugle né se laver, si vous vous en souvenez, c'était dans le Nouveau Testament aussi, ce bassin de Siloé. Or, ce tunnel de Siloé, qui a été redécouvert justement par le fameux Clermont-Ganneau en question, et c'est un tunnel qui a été creusé dans le roc. Par quelle technique d'ailleurs, c'était certainement très très important, qui fait plusieurs centaines de mètres, et qui en particulier fait un double S. On peut le visiter aujourd'hui encore, n'est-ce pas? On y pénètre dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, éventuellement dans les endroits les plus profonds jusqu'à mi-ventre. Et ce bassin est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie parce qu'il a une pente, si vous voulez, d'un centimètre par kilomètre. Alors vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il suffisait que les ouvriers, dans la réalisation du plan, se trompent un petit peu et puis l'écoulement de l'eau était impossible. D'ailleurs, vous avez cette expression dans le livre du prophète Ésaïe, « les eaux de Siloé qui coulent doucement ». C'est certain qu'avec une pente d'un centimètre par kilomètre, l'écoulement de l'eau ne peut se faire que très lentement. Et l'inscription de Siloé se trouvait donc au milieu du tunnel, dans ce double S qu'il fait. Il disait à peu près ceci, n'est-ce pas? Soudain, tel jour, à tel moment, n'est-ce pas, à telle heure, les deux équipes qui travaillaient aux deux côtés du tunnel ont soudain entendu le pic de leurs camarades qui travaillaient dans l'autre équipe. Et soudain, les pics se sont heurtés entre eux. Ça veut dire qu'ils se sont rencontrés et l'eau a coulé à l'intérieur du tunnel. Et donc, c'était une plaque inaugurale, si vous voulez, qui avait été déposée là en souvenir du moment où les deux équipes qui travaillaient aux deux extrémités du tunnel s'étaient rencontrées et où, par conséquent, le tunnel avait commencé à remplir sa fonction. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui a bouleversé les archéologues, c'était de voir que, précisément, les deux équipes s'étaient rencontrées pile. Car si vous avez un double S, c'est ça ? Et qu'il fallait suivre ce double S dans le rocher à l'aveuglette pour tomber pile, il suffisait qu'il dévie d'un mètre ou de deux, et puis ils ne se seraient jamais rencontrés. Or là, ils se sont rencontrés pile, n'est-ce pas, et la pente de 1 cm par kilomètre a pu être absolument respectée. Alors, cette écriture est tout à fait intéressante parce que c'est un des plus longs textes que l'on ait. Le calendrier de Gezer est un document relativement court. Les autres inscriptions dont nous avons parlé aussi, mais l'inscription de Siloé fait une quinzaine de lignes facilement. Et par conséquent, on a pu la comparer avec le langage biblique de l'époque, celui qui est la langue des prophètes. C'est l'époque, nous sommes à l'époque ici des grands prophètes classiques, d'Ésaïe, de Michée, nous sommes à l'époque du livre des rois, hein, et du livre des psaumes aussi, n'est-ce pas? Or, nous avons effectivement la même langue, n'est-ce pas? Les mêmes tournures grammaticales, les mêmes tournures de style, n'est-ce pas? Le même vocabulaire que celui que nous avons justement dans les textes bibliques. C'était une extraordinaire confirmation de l'authenticité des textes bibliques bien avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte que cette inscription de Siloé. Ensuite, nous avons une autre inscription qui, elle aussi, est une extraordinaire confirmation des textes bibliques qu'on appelle l'inscription de Shevna Asher Alabait. C'est une inscription qui a été découverte entre les deux guerres, si vous voulez, un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai plus les dates exactes en tête, par le professeur Soukenik. Et cette inscription a été découverte sur un tombeau, un des tombeaux nombreux qui sont dans ce qu'on appelle la vallée du Cédron, à l'est de Jérusalem. Ceux qui connaissent un peu Jérusalem, David, tout ça, vous avez vu les tombeaux monumentaux qu'il y a dans la vallée du Cédron, vraisemblablement ce qu'on appelle le tombeau d'Absalom, le tombeau de Zacharie, qui n'a rien à voir avec Absalom ni Zacharie, mais enfin c'est la tradition qui leur a donné ce nom. Et il y a, sur l'autre pente du village de Siloé, du village arabe, il y a des tombeaux qui sont creusés dans le roc, vous avez peut-être vu ça, vous les avez aperçus peut-être. À flanc de montagne, carrément, quoi. Hein. Certains d'ailleurs servent d'habitation maintenant pour les Arabes qui habitent dans le village de Siloé. Et le tombeau de Shevna Asher Alabait était dans un de ces tombeaux-là. Et cette inscription disait à peu près ceci, c'est très intéressant, cette inscription est écrite en hébreu carré, n'est-ce pas ? C'est-à-dire en hébreu qui, en principe, qu'on croyait être un hébreu qui ne datait que du retour de l'exil, mais en fait, on s'est rendu compte là, grâce à cette inscription de Shevna Asher Alabait, que déjà, à l'époque classique, n'est-ce pas, il commençait à avoir un usage de l'hébreu carré. Et cette inscription dit à peu près ceci, n'est-ce pas ? Ceci est le tombeau de Shevna Asher Alabait, ça veut dire préposé à la maison du roi, si vous voulez, préfet du palais ou premier ministre, ça correspondrait aujourd'hui à peu près au rang de premier ministre. Il n'y a ici que ses os et les os de sa femme. Maudit soit quiconque ouvrira ce tombeau. Or, ce Shevna Asher al-Abayt, on le connaît par la Bible, justement. C'est un personnage que la Bible évoque en Ésaïe 22, versets 15 à 16. On va lire le texte, et c'est très intéressant, justement, quand on le lit dans ce contexte-là. Ésaïe 22, 15, 16. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, c'est s'adresse à Ésaïe, hein. Shevna, Asher al-Abayt, gouverneur du palais, et dis-lui, qu'est-ce que tu as, toi, ici? Et qu'est-ce que tu as... Et qui as-tu pour toi ici, pour que tu te creuses ici un sépulcre, un tombeau? On se creuse un sépulcre sur les hauteurs, on se taille une demeure dans le roc. Voici que l'Éternel te jettera d'un jet vigoureux et te bâillonnera d'un bâillon, il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse, là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi l'ignominie de ta maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera situation en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiyahu, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je remettrai ton pouvoir entre ses mains, il sera un père pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira, etc. Donc ici, on a retrouvé la tombe de ce fameux Shevna qui est cité par le livre du prophète Ésaïe et qui a été précisément maudit par le prophète pour s'être construit un tombeau luxueux, somptueux, qu'il a rapidement occupé selon justement la prophétie qu'Ésaïe avait été amené à lui faire de la part de l'Éternel. Bien, autre inscription qui va à peu près dans la même époque, c'est celle dont nous avons déjà parlé, la stèle de Meshach, roi de Moab, qui a été découverte aussi à peu près à la même époque, c'est-à-dire au siècle dernier, à la grande époque de l'archéologie, par le même Clermont-Ganneau d'ailleurs, qui se trouve aussi au musée du Louvre pour la même raison, et qui a été découverte dans le pays de Moab. Mécha, sur cette stèle, qui est en basalte noir, que les Bédouins avaient cassé en plusieurs morceaux parce qu'ils pensaient qu'il y avait un trésor à l'intérieur et que Clermont-Ganneau a pu reconstituer relativement aisément, c'est une très très longue stèle qui est écrite en moabite. Le moabite est une langue qui est très proche de l'hébreu, et est très facile de comprendre le moabite quand on lit l'hébreu. C'est un hébreu qui est très proche de l'hébreu biblique, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et ça évoque aussi un épisode qui est cité dans la Bible, dans le livre des rois, cet épisode où les rois de Jérusalem, Josaphat, les rois de Juda, Josaphat, et le roi de Samarie, Akab, à l'époque, s'allient avec le roi d'Édom pour faire rentrer Moab, qui s'est révolté contre la suzeraineté israélite, pour le faire rentrer sous cette même suzeraineté d'Akab. Et puis les trois rois donc s'engagent dans cette aventure, et puis soudain ils se trouvent dans la sécheresse, il n'y a plus d'eau à boire, enfin c'est la déroute imminente, non pas pour cause de bataille, mais pour cause justement de défaut de logistique, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Et alors Josaphat fait venir Élisée. Élisée est en colère, il dit comment vous êtes engagé dans cette affaire sans consulter l'Éternel, etc. Et puis finalement il est tellement énervé qu'il dit je ne peux pas écouter la voix du Seigneur dans ces conditions-là, faites-moi venir un joueur de harpe. Et puis pendant qu'on joue de la harpe, l'Esprit de l'Éternel vient sur Élisée, et Élisée annonce la victoire, qu'on creuse des fosses, et le lendemain, c'est pas, il y aura une pluie soudaine qui interviendra, qui fera que les fosses se rempliront d'eau, et ainsi en est-il, et ainsi l'expédition qui risquait de tourner à la déroute se termine par un succès, par une victoire. Bon. Alors nous avons ici sur la stèle de Mécha le même épisode qui est évoqué, mais cette fois-ci du côté moabite, c'est Mécha qui parle. Et la stèle commence par cette mention « Je suis Mécha, roi de Moab », donc l'adversaire de ces trois rois. Mécha, dont il nous est dit dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, qu'il se révolta, après la mort d'Omri, il se révolta contre Akab. Et Mécha nous dit cela, il nous dit « Voilà, pendant tant d'années, Omri de Samarie avait opprimé mon père. Puis Akab, son fils, avait continué à m'opprimer. » Puis à la mort de mon père, je me suis assis sur le trône de mon père et je me suis révolté contre la tyrannie de ce roi cruel qui était le roi d'Israël, qui était Akab. Je dévouai par interdit, c'est très intéressant cette expression qu'on trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Je dévouai par interdit tous les habitants des villes, les habitants israélites des villes qui étaient dans mon royaume, Divon, Aroer, Elalé, enfin toutes les villes du Moab, n'est-ce pas? Et je les offrais en sacrifice à Kemosh, mon Dieu. jusqu'à ce que viennent les ennemis, n'est-ce pas? Et dans la suite, il raconte la bataille, n'est-ce pas? La bataille. Et comment, justement, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il a été amené à sacrifier son fils premier-né pour obtenir la victoire. Il a offert son fils premier-né à Kmosh, son dieu. Et bien entendu, sur la stèle de Moab, ça se termine par une grande victoire des Moabites, c'est évident, n'est-ce pas? Les rois d'Orient ancien ne connaissent jamais de défaite, ils ne connaissent que des victoires, comme les pharaons. Bon, on sait en fait la parole de Dieu que la victoire, elle n'a pas été si brillante que ça, n'est-ce pas? Et qu'au contraire, la ville de Divon a été complètement rasée par les trois rois, comme le Seigneur l'avait dit par la bouche du prophète Élisée. Alors cette stèle est très intéressante justement parce qu'elle nous confirme aussi le récit biblique, cette fois-ci du côté de l'adversaire, si j'ose dire. Alors nous avons aussi d'autres séries de lettres qui sont très de documents qui sont très intéressants de la même époque, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle déjà. Il s'agit de ce qu'on appelle les lettres de Samarie. Les lettres de Samarie sont une série d'ostraca, c'est-à-dire de billets qui sont écrits sur des tessons de poterie et qui sont des reçus des différentes divisions administratives de Samarie, qui étaient dans un espèce de retrouvées dans les ruines d'un ancien magasin royal, où était entreposé, si vous voulez, le tribut que les différentes provinces devaient payer au roi tous les jours. Nous savons, par exemple, que Salomon consommait tous les jours pour sa table personnelle tant de mesures de blé, tant de mesures d'huile, tant de mesures de vin, tant de ceci, tant de cela, tant de bœufs, tant de moutons, etc. D'où venaient toutes ces choses-là? Évidemment, des tribus que payaient en nature les différentes divisions administratives du pays, et que Salomon avait divisé le pays d'Israël en 12 provinces, et ça ne correspondait plus aux 12 tribus traditionnelles, mais 12 provinces, n'est-ce pas, qui avaient pour but, entre autres choses, cette division avait pour but de lever le tribut en nature, qui permettait justement d'approvisionner la table du roi, la table plantureuse du roi. Bon, les rois de Samarie ont gardé la même manière de faire, et le royaume du Nord était divisé en un certain nombre de provinces, dont on connaît maintenant justement la division administrative grâce à ces lettres de Samarie, qui tous les mois ou toutes les semaines payaient tel et tel tribut. Alors reçu de telle province, la province d'Israël, tant de mesures de blé, tant de bœufs, tant de moutons, etc. Tout ça s'est été répertorié très soigneusement et archivé donc dans le magasin où se tenaient les archives royales, quoi. Alors, on connaît le nom des secrétaires qui recevaient ce tribut. Bon, ces lettres, elles datent de la fin du royaume de Samarie, si vous voulez, c'est-à-dire, grosso modo, des derniers rois de Samarie, notamment du roi Menachem. Peut-être à partir de Jéroboam II jusqu'à la fin du royaume de Samarie, en gros, quoi. Et notamment, ce qui est très intéressant de noter à cette période-là, c'est que les noms des fonctionnaires royaux qui sont mentionnés, par exemple, aussi bien ceux qui recevaient le tribut de la part du roi que ceux qui offraient le tribut, donc des différentes provinces, portaient tous des noms théophoriques, ça veut dire des noms avec le nom de Dieu. Soit des noms yavistes, c'est-à-dire dans lesquels il y avait le nom de l'Éternel, Yah ou Yahou, etc. Ou bien, là, l'autre moitié, à peu près 50%, avait le nom de Baal. Et ça correspond tout à fait à l'image que nous donne du Royaume du Nord le livre du prophète Osée, qui date de la même époque, qui montrait qu'il y avait une pénétration du baalisme, une persistance du baalisme, des cultes de Baal, d'une manière effarante dans le Royaume du Nord. Et vous savez que c'est un des gros problèmes qu'évoque le prophète Osée. C'est pas, j'ôterai les noms des Baals, on ne les prononcera même plus à cette époque-là, n'est-ce pas? Bon, ben, la moitié des habitants du pays de Samarie avaient le nom de Baal dans leur nom. Par exemple, Baal est grand, Baal est puissant, ou bien des choses comme ça, c'était ce que signifiait leur nom. Et 50%, à peu près, grosso modo, bien sûr, c'est pas, étaient des fidèles de l'Éternel. Donc il y avait vraiment ce gros conflit qu'on voit naître en particulier à l'époque du prophète Élie et qui va subsister jusqu'à la fin du royaume du Nord et entraîner la chute du royaume du Nord, selon justement ce que nous dit l'histoire inspirée. Bien. Alors, ça, c'est très intéressant. Nous avons ensuite une autre série de lettres qu'on appelle les lettres de Lachish, parce qu'elles ont été trouvées dans cette ville. Lachish est une ville qui est située au pied de la chaîne des montagnes, à peu près, si vous voulez, à la limite entre le pays de Juda et le Negev. C'était une place forte qui a résisté, par exemple, lors de l'invasion de Sanhérive. et on a retrouvé dans le palais des rois d'Assyrie à Ninive, n'est-ce pas, des bas-reliefs monumentaux, gigantesques, qui évoquent la prise de Samarie par la prise de Lachish, je veux dire, par Sanhérib, par le roi Sanhérib. Ce sont des fresques, c'est presque une bande dessinée, c'est très intéressant. Et là, ça c'est grand, c'est à peu près grand comme 1,50 m, à peu près, si vous voulez, de hauteur. Hein. Et c'était donc certainement le long d'une grande salle qui devait être une salle. Peut-être le palais, la salle du trône du palais, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui évoquait la difficulté que le roi avait eue pour prendre cette ville. C'était un titre de gloire, n'est-ce pas, que la prise de cette ville de Lachish. Alors, on voit la ville, n'est-ce pas, avec ses fortifications, si bien qu'on peut se représenter comment étaient les fortifications de cette période-là, la période biblique, avec finalement ce que la Bible nous dit que le roi Ozias avait fait. Il nous est dit dans le livre des rois qu'un des derniers rois de Juda, qui s'appelait Ozias, qui donc vivait un petit peu avant cette période-là, avait construit des machines de guerre. Alors, les machines de guerre, vous en avez une exposition actuellement à Continent, n'est-ce pas ? Vous voyez les balistes, les catapultes. Alors, il ne faut pas croire que c'était ça du tout, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'était les machines de guerre ? Justement, les bas-reliefs de Sanhérib le montrent. C'était en haut des murailles, vous aviez des espèces de balcons en bois qui surplombaient, si vous voulez, la muraille, comme ça, avec des parapets, bien entendu, pour éviter qu'on leur tire des flèches ou des choses comme ça. Et c'est le but de ces balcons, c'est qu'ils surplombent, si vous voulez, d'éventuels envahisseurs qui venaient pour battre le pied de la muraille ou pour tenter de l'escalader. Alors il y avait des ouvertures, si vous voulez, sur le plancher de cette espèce de balcon. Et quand, par exemple, des envahisseurs venaient au pied de la muraille, soit pour tenter de l'escalader, soit avec des béliers pour essayer de démolir la muraille, n'est-ce pas ? On leur balançait depuis le haut des balcons, on surplombait, si vous voulez, donc les envahisseurs, comme ça, c'était très intéressant, tout en étant soi-même à l'abri, hein ? Et on leur balançait, évidemment, toutes sortes de choses pour les refroidir, de l'huile bouillante, ou bien des flèches, des trucs enflammés pour mettre le feu au bélier, enfin, tout ce qu'il fallait pour essayer de les empêcher de donner suite au siège, quoi. Alors, on voit très bien, n'est-ce pas, c'est des espèces de flambeaux qui tombent sur le bélier. Il y a un gros bélier, n'est-ce pas, plusieurs gros béliers, d'ailleurs, qui sont dépeints sur le bas-relief, qui montent sur une espèce de rampe en terre comme ça, que les assaillants ont construite le long de la muraille. Et alors on voit le bélier, n'est-ce pas, ce bélier à roues, hein, qui est carapaçonné, il y a une espèce de carapace, n'est-ce pas, qui entoure le bélier, et les défenseurs sont à l'intérieur, ils sont représentés à l'intérieur, et puis le bélier est bardé de plaques de fer, on dirait un tank, si vous voulez, ça c'est une espèce de tourelle dans laquelle était la pièce qui manœuvrait et qui était en bois pour ébranler la muraille, il y avait une potence à l'intérieur de cette tourelle, et puis le bélier sortait, n'est-ce pas, comme le canon d'un tank aujourd'hui, et il y avait des roues, et par les roues, n'est-ce pas, l'ensemble montait le long de la rampe de terre, comme ça. Et au bout du madrier qui servait de bélier lui-même, il y avait une espèce de grosse pointe en métal, comme ça, qui venait s'encastrer entre les murailles entre les pierres de la muraille pour essayer de les faire tomber. Éventuellement, qui pouvait atteindre aussi, justement, les sommets de la muraille et détruire les machines qui étaient là-haut, n'est-ce pas ? Surtout si on arrivait à faire la rampe de terre assez haute pour que le bélier puisse surplomber les superstructures de la muraille. Et alors on voit très bien ces deux ou trois béliers qui sont à certains endroits, on voit les pierres qui tombent, et puis on voit derrière les soldats assyriens. Alors vous avez deux types de fantassins, des fantassins qui sont légèrement armés avec des boucliers ronds, et qui montent à l'abri de leurs boucliers ronds, n'est-ce pas ? Ils mettent le bouclier sur la tête parce qu'on leur balance des choses depuis le sommet de la muraille. On voit les volées de flèches qui leur arrivent dessus, n'est-ce pas ? Et puis derrière, il y a une espèce d'artillerie, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire des archers qui sont protégés par des écuyers. C'est-à-dire que vous avez des archers qui ont des arcs composés qui tirent très loin, et ils sont protégés par un écuyer qui a un grand bouclier d'osier comme ça, qui le recouvre presque totalement, n'est-ce pas, qui est de hauteur d'homme et qui a une forme, à peu près cette forme-là, comme ça, n'est-ce pas, et puis qui arrête toutes les flèches qui viennent de là-haut. Puis alors, depuis cette position un petit peu en retrait par rapport à ceux qui montent à l'assaut, ces gens-là tirent sur ceux qui sont dans la muraille sur le balcon pour essayer justement de les empêcher de bombarder ceux qui montent à l'assaut. Bon, alors ça, c'est toute la scène de la bataille. On sait, par conséquent, grâce à ce bas-relief, quelles étaient les tactiques d'assaut et de siège des villes, donc des Assyriens. Puis alors ensuite, ça continue, on voit une séquence suivante, si vous voulez, comme dans une bande dessinée, je disais, la ville prise. Hein. La brèche qui est faite dans la muraille, et puis le sort qui est réservé aux malheureux vaincus en particulier. Alors on voit d'un côté une caravane de captifs qui prend le chemin de l'exil. Vous savez, ça nous fait penser à l'exil de Babylone tel qu'il est décrit dans la Bible. Alors femmes, enfants, vieillards, notamment des chanteuses, des chanteurs, n'est-ce pas, des musiciens. On les voit qui ont leur instrument. Et nous savons, par exemple, dans la Bible que Nebuchadnezzar a emmené à Babylone les chanteurs et les chanteuses avec des instruments de musique. Et on voit des femmes, n'est-ce pas, qui sont en train de se bricoler la gorge. Là, certainement que c'était une technique, n'est-ce pas, qu'elles avaient pour faire des trémolos. On pense que c'était des chanteuses qui faisaient des trémolos en, je sais pas quoi, se tapant sur la gorge, etc. Faisaient des techniques qui sont plus employées aujourd'hui. Qui sont là, on les voit, qui prennent le chemin de l'exil. Alors on voit aussi les chariots de butin qui partent, tirés par des chars à bœufs, etc. Et puis alors on voit aussi alors le sort qui est réservé aux élites, et qui sont écorchés vifs. Alors on les voit en train d'être, on voit des soldats en train d'écorcher vifs des malheureux. Là, c'était une technique que les Assyriens employaient pour frapper de terreur leurs adversaires. Les chefs, n'est-ce pas, les principaux chefs des villes conquises étaient écorchés vifs. Et puis quand on leur enlevait la peau, pas, et puis ensuite on les pendait sur une perche, on les pendait, n'est-ce pas, il y a une espèce de fourche, on les pendait par le cou, puis on les bloquait comme ça, puis on les laissait au soleil, écorchés vifs, vous voyez le rayon du soleil sur les plaies, ce que ça pouvait leur faire, quoi. Bon, alors tout ça c'est minutieusement dépeint sur le bas-relief de l'Achish. Et donc ça c'était, si vous voulez, à l'époque de Sanhérib. Alors, un petit peu plus tard, un siècle plus tard, nous avons justement, dans un autre endroit de la ville de Lachish, alors ce bas-relief-là, je termine là-dessus, il est au British Museum actuellement, hein, ça a été récupéré par les Anglais. Alors à Lachish même, on a trouvé dans une chambre qui porte des traces d'un combat de l'époque suivante. Alors si vous voulez, là nous sommes à l'époque assyrienne, avec les lettres de Lachish, nous sommes à l'époque chaldéenne, avec l'époque de Nebuchadnezzar. Nous savons aussi que Nebuchadnezzar s'est emparé de Lachish. Et notamment, n'est-ce pas, nous lisons dans le chapitre 30 et quelques de Jérémie, on va lire ce texte. Enfin, je ne retrouve plus la référence exacte, mais toujours est-il qu'il nous est dit ceci dans un texte de Jérémie, que le roi de Babylone assiégeait à cette époque-là les villes de Lachish et d'Azéka, car c'était les deux villes qui restaient en Juda, alors que le prophète Jérémie était en prison, donc à Jérusalem. Or, justement, nous avons retrouvé là, les archéologues ont redécouvert une série d'ostraca, c'est-à-dire de tessons de poterie comme ça, qui sont des lettres, et c'est une correspondance entre le gouverneur militaire de la place de Lachish et puis un observateur qui se trouvait posté sur les collines à quelque distance de là. Et c'était un poste de veille, si vous voulez, qui permettait de communiquer par des signaux type signaux Morse. Hein, le Morse n'est pas quelque chose de très moderne, finalement. Ce n'était pas le même Morse à cette époque-là, bien entendu, mais c'était le même principe exactement, des signaux de fumée ou des signaux de feu, n'est-ce pas ? Et alors, si vous voulez, il transmettait au gouverneur militaire de Lachish les instructions du roi de Jérusalem. Alors, depuis ce poste-là, on pouvait voir à la fois les signaux qui venaient de Jérusalem, et puis à la fois, si vous voulez, les signaux qui venaient de Lachish, de l'Ashfela. Et par l'intermédiaire de ces lettres, quand on les replace dans l'ordre chronologique, on voit se développer l'avance babylonienne, l'avance chaldéenne dans le pays de Juda. Alors, il y a des choses tout à fait intéressantes, notamment, par exemple, cette mention qui nous dit ceci. Cet observateur-là est au courant aussi de ce qui se passe à la cour de Jérusalem, parce qu'il y va de temps en temps, vraisemblablement. Et puis, il communique au gouverneur de Lachish ce qui se passe à Jérusalem. Il dit, voilà, sache que les paroles du prophète ne sont pas favorables. Ça veut dire que le prophète n'annonce pas une issue favorable sur le conflit. Bon, le prophète, il ne nous est pas dit quel était le prophète, mais bon, bien qu'il y ait eu plusieurs prophètes en Juda en ce temps-là, par exemple, nous entendons parler de faux prophètes auquel Jérémie s'en prend. Mais enfin, il est certain que quand on dit le prophète tout court, c'était le grand prophète de cette période-là, ça ne peut être que le prophète Jérémie. Or, quel était en plus de ça le prophète et le seul prophète qui annonçait une issue défavorable au conflit, c'était justement, selon la Bible, le prophète Jérémie. Et pour ça, il a été emprisonné et menacé de mort, précisément. Sache donc que les paroles du prophète ne sont pas favorables. Et notamment, le prophète, en question dans les lettres de Lachish, s'en prend avec véhémence à toute une manœuvre qui a lieu pour essayer de chercher du secours en Égypte. On apprend par les lettres de Lachish que le roi de Jérusalem, le roi Sédécias, a envoyé des messagers pour essayer d'obtenir du secours contre les Chaldéens en Égypte. Et puis le prophète condamne fortement, n'est-ce pas, cette manœuvre en reprenant les termes bibliques, c'est un roseau. L'Égypte est un roseau percé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. Alors là, voyez-vous, nous sommes à fond dans la confirmation des choses bibliques. Et puis, ça continue comme ça, disant, ben voilà, on aperçoit les armées babyloniennes qui descendent du nord, c'est pas qui s'approchent, etc. Et puis, finalement, l'observateur en question, la dernière lettre, la plus dramatique, la plus tragique, dit ceci, en gros, n'est-ce pas, que mon Seigneur sache que depuis ce matin, nous apercevons encore les signaux de Lachish, mais nous ne voyons plus ceux d'Azéka. Le prophète Jérémie, dit la Bible, était enfermé à la prison, et le roi de Babylone assiégeait Lachish et Azéka, c'étaient les deux seules villes qui restaient en Juda. Eh bien, la dernière lettre mentionne le fait que Azéka était tombé, il ne restait plus que Lachish. Et vraisemblablement, quelques jours après, Lachish, à son tour, est tombé, puisqu'il n'y a plus de correspondance. La correspondance s'arrête brutalement à cette époque-là. Bon, alors ça, c'est une autre découverte intéressante. Nous avons aussi, alors, à peu près de la même époque, ce qu'on appelle le Metsav Hachaviahou. Hachaviahou était c'est une lettre aussi que l'on a découverte, comme ça, sur un ostracone, ce qu'on a découverte non loin de Tel Aviv moderne, si vous voulez, de Yavne, qui est une inscription hébraïque, mais on sait que cette région n'a été entre les mains du royaume de Juda que pendant le règne de Josias. Donc c'était un petit peu avant l'époque, justement, des lettres de Lachish. Et ce Metsav Hachaviahou, c'était l'endroit où c'était découvert, évoque, si vous voulez, la plainte d'un ouvrier agricole qui écrit au gouverneur à peu près en ces termes, disant, voilà, ton serviteur était en train de moissonner comme d'habitude. Est arrivé un certain personnage dont j'ai oublié le nom, qui a trouvé que ton serviteur ne travaillait pas comme il aurait dû le faire, il lui a confisqué son manteau. Par conséquent, je me trouve maintenant, ton serviteur se trouve dans une grande détresse parce qu'il n'a plus de quoi se couvrir la nuit. Alors je demande expressément à mon serviteur, à mon seigneur, qu'il fasse le nécessaire auprès de ce personnage-là, cette espèce de contremaître abusif qui m'a confisqué mon manteau, pour que selon ce qui est écrit dans la Torah, eh bien, il me rend mon manteau avant le soir. Et là, ça fait plusieurs soirs qu'il ne me l'a pas rendu. Il est en infraction par rapport à ce qui est écrit dans la Torah. Alors je demande que finalement, tu fasses le nécessaire pour que ce contremaître se conforme à ce qui est écrit dans la Torah, à savoir que quand on confisquera le manteau d'un serviteur négligent, on le lui rendra avant le soir pour qu'il puisse avoir chaud le soir. C'est écrit dans un certain texte du Deutéronome, j'ai oublié la référence. Et là, on voit encore combien, justement, cette idée des critiques dont nous avions parlé, n'est-ce pas, que le Deutéronome est quelque chose de très récent, en fin de compte, n'est-ce pas, c'était des lois qui étaient en application à cette période-là, enfin du moins qui auraient dû être en application, mais qui étaient connues, et desquelles, précisément, on se réclamait à cette période-là. Bon, alors ça, c'est encore un texte aussi tout à fait intéressant. Et puis alors, nous avons aussi, alors beaucoup plus récemment, des fouilles qui ont été effectuées à Jérusalem depuis 1980, à peu près la décennie des années 80, et qui a permis de redécouvrir des restes de la ville de l'époque de Jérémie, notamment justement des endroits qui ont été détruits par Nebuchadnezzar au moment du siège de Jérusalem en 586. Et parmi ces différentes maisons qui ont été mises en évidence, on a découvert ce que le professeur Shiloh a appelé la maison des bulles. Qu'est-ce que c'était que la maison des bulles? C'était des archives de la ville de Jérusalem, dans lesquelles étaient archivés tous les documents officiels, toutes les transactions, les ventes et les choses comme ça. Nous lisons toujours dans le livre du prophète Jérémie qu'un beau matin, alors qu'il était en prison, son oncle Shalom est venu le voir pour lui demander d'acheter un champ. Un champ qu'il avait à Anatot et par rapport auquel, selon la parole de Dieu, il avait droit de rachat. Et donc, Jérémie, le Seigneur lui avait dit, ton oncle va venir et il te demandera d'acheter son champ, tu le feras. Alors Jérémie lui achète son champ, il lui pèse l'argent, parce qu'on pesait l'argent à cette époque-là, devant des témoins. Et puis, il y a un texte officiel qui est écrit, un contrat de vente, qui est scellé, qui est roulé, hein, et puis qui est scellé par une cordelette. Et on met une bulle, c'est-à-dire une espèce de seau, si vous voulez, en terre cuite, n'est-ce pas, qui empêche que l'on ouvre le document en question, et sur lequel il est écrit « Contrat de vente entre Jérémie et son oncle Shalom, qui date du temps, n'est-ce pas, et qui a trait à un champ qui se trouve situé à tel endroit, numérotant du cadastre, etc., à Anatot. » Bon. Et puis ce document était ensuite archivé dans un endroit spécial, où étaient archivées évidemment toutes les transactions du même ordre. Bon. Or, c'est ce bâtiment d'archives, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé dans les fouilles qui ont été effectuées en 1980. Et on a retrouvé non pas les documents eux-mêmes, parce qu'ils étaient en parchemin, et par conséquent ils ont été détruits, mais par contre les bulles, c'est-à-dire les sceaux qui scellaient ces différents documents, qui eux étaient en terre cuite, étaient, un certain nombre du moins d'entre eux, étaient intacts. On n'a malheureusement pas retrouvé celui qui évoquait la transaction entre Shalom et Jérémie, mais par contre, on a trouvé le nom d'un certain nombre de personnages qui nous sont cités dans le livre de Jérémie. Hein. Notamment le préposé à la maison du roi de l'époque, Chilkia, si ma mémoire est bonne, et puis aussi, donc, sur ce qui a été la découverte la plus extraordinaire, c'est qu'on a redécouvert un sceau qui portait ce nom, n'est-ce pas, contrat appartenant à Baruch, le fils de Neria. Baruch qui n'était autre que le secrétaire de Jérémie, celui qui a copié le livre de Jérémie sous la dictée du prophète. Et le professeur Nachman Avigad, qui a eu cette découverte, disait, je ne pourrais pas vous dire l'émotion qui m'a étreint quand j'ai déchiffré sur ce truc, c'est pas appartenant à Baruch, le fils de Jérémie, le fils de Neria. C'est comme si, soudain, il disait, j'étais en contact avec ces géants de la foi d'autrefois, quoi. Hein. Bon, alors ça, c'est une des découvertes les plus intéressantes et les plus bouleversantes qui soient. Alors, toujours sur le plan des inscriptions, dernièrement, alors ça remonte à ça, un an, je crois, ou un peu plus, on a découvert dans les ruines de Dan, une inscription qui a été écrite par le roi de Syrie, Ben-Hadad, un des Ben-Hadad, et qui évoque, n'est-ce pas, pour la première fois en dehors de la Bible, le nom du prophète, pas le nom du roi David. Le roi David n'était pas connu en dehors de la Bible. Enfin, on n'avait pas de document, si vous voulez, qui évoquait la personne du roi David en dehors de la Bible. Mais ici, nous avons pour la première fois un document de ce type-là. Bien. Alors, maintenant, last but not least, la chose la plus intéressante, la plus bouleversante, a été réalisée aussi dans ces années 80, dans des fouilles qui ont eu lieu dans une vieille tombe de la vallée de la Géhenne, qui se trouve à l'ouest de Jérusalem. Sur le flanc ouest de la vallée, sur un flanc de colline sur laquelle se dresse à l'heure actuelle la cathédrale presbytérienne écossaise de Jérusalem, le professeur Gabriel Barcaille a découvert un certain nombre de tombeaux qui dataient de la fin de l'époque du premier temple, c'est-à-dire de la même époque, si vous voulez, à peu près l'époque de Jérémie, grosso modo, jusqu'à la fin jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et ces tombes, chose extraordinaire, certaines d'entre elles du moins, n'avaient jamais été violées. ce qui est extrêmement rare en archéologie, parce que pratiquement toutes les tombes anciennes ont été visitées par des pillards qui volaient ce qu'ils pouvaient y avoir à voler, c'est-à-dire des offrandes qui étaient faites aux morts. À cette époque-là, on ne leur offrait pas des fleurs aux morts, mais on leur offrait des objets précieux. Ils étaient enterrés avec les objets précieux qui étaient les leurs, des bijoux, de l'argent, etc. Si bien que les tombes étaient souvent des lieux que les pillards, les voleurs, les malfrats de tous ordres visitaient pour les voler. D'où justement les malédictions, comme celle qu'on a vue tout à l'heure sur la tombe de Chevna Asher al-Abayt. Maudit quiconque ouvrira ce tombeau. Vous savez que les pharaons avaient des choses semblables et que les archéologues qui ont violé la tombe de Toutanakhamon au début du siècle sont tous morts mystérieusement. Bon, on a expliqué ensuite cette mort-là, non pas par la malédiction du pharaon, mais par des causes naturelles. Encore que il s'agirait de voir si derrière ces causes naturelles, il n'y avait pas aussi des causes surnaturelles. Enfin bon, passons, ça c'est un autre problème. Pour ceci, pour dire que justement, on prenait des précautions. Alors, il y avait une autre manière aussi de décourager, alors qui était peut-être un peu plus efficace que les malédictions comme ça diverses, n'est-ce pas ? C'est que à l'entrée de la tombe, si vous voulez, on faisait une espèce de grande fosse, hein, juste à l'entrée. Et puis, quand on arrivait évidemment de la lumière, qui était souvent très violente au Moyen-Orient, on entrait dans l'obscurité de la tombe, on ne voyait pas le trou. Puis les gars tombaient les deux pieds et la tête la première dans la fosse en question. Puis alors, évidemment, ils n'en sortaient plus jamais. Ce tombeau devenait leur tombeau. Mais enfin, certains avaient appris à déjouer ce genre de piège qui finissait par être connu, quoi. Et donc, si vous voulez, la plupart des tombes étaient violées. Et puis, il se trouve que ces tombes-là, ces tombes de la vallée de la Gienne, ne l'étaient pas. Et notamment, dans une de ces tombes-là, le professeur Barkay a découvert... Bon, les tombes sont toutes construites sur le même modèle à peu près. Si vous voulez, vous avez une espèce d'antichambre. Et puis ensuite, vous avez les chambres mortuaires qui peuvent être nombreuses, parce que les tombes étaient des tombes qui étaient souvent employées pour toute une famille, voire même toute une dynastie. Alors, vous aviez plusieurs chambres funéraires selon la richesse de la famille, parce que se creuser un tombeau, comme on le voit justement dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure au sujet de Chevna al-Abayt, c'était quelque chose de très important. Ça coûtait très cher parce que ça prenait des années pour faire un tombeau. Alors la main-d'œuvre pour creuser le tombeau, c'était cher. Donc, si vous voulez, quand on avait un tombeau, on ne le faisait pas pour soi-même seulement, on le faisait pour toute la famille. Éventuellement, la tombe était employée pendant plusieurs générations. Par exemple, vous trouvez le fait que Jésus a été enterré dans un tombeau neuf dans lequel jamais personne n'avait été mis. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était, nous était dit, un homme riche de Jérusalem, qui avait les moyens justement de se creuser ce tombeau, qui s'était fait pour lui-même et pour sa propre famille. Alors donc, si vous voulez, le tombeau se présentait de la manière suivante, les chambres funéraires, vous aviez ce qu'on appelait des reposoirs, c'est-à-dire des espèces de banquettes en pierre, n'est-ce pas ? Par exemple, si vous aviez une chambre rectangulaire, vous aviez une banquette, par exemple, sur les deux côtés latéraux, puis vous aviez deux autres reposoirs sur la façade, sur la plus grande façade, quoi. Bon, éventuellement, vous aviez accès par cette première chambre funéraire sur une deuxième chambre, puis vous aviez le même phénomène, quoi. Alors, quand vous aviez quelqu'un qui mourait, il était enveloppé dans des blanquettes, comme on lit pour ce qui est de Jésus, avec des aromates. Et puis, le corps était déposé sur un reposoir. Et puis ensuite, tout ça s'était scellé. Et un an après, on revenait. Quand la chair s'était décomposée, on récoltait les os. Et ces os, on les mettait dans une espèce de coffre en terre, en général, ou en pierre, qu'on appelait un ossuaire, dans lequel on mettait le nom du mort, n'est-ce pas ? Et puis, ces ossuaires étaient ensuite placés dans une autre chambre funéraire, qui était dans une autre partie du tombeau, dans laquelle il y avait des petites niches, comme ça, où on mettait les ossuaires avec le nom du mort. Et puis, les reposoirs eux-mêmes étaient disponibles pour d'autres morts qui venaient. Donc, vous aviez dans un tombeau plusieurs générations de morts qui étaient ensevelis les uns avec les autres, d'où l'expression biblique « être rassemblé à ses pères ». Hein, quand on mourait, on était rassemblé à ses pères parce qu'on allait dans les tombeaux, de ses pères, et les ossements rejoignaient les ossements des pères. Alors, le professeur Barkay a découvert justement sur un des reposoirs un squelette qui n'avait pas été, qui n'avait pas eu le temps, ou bien on n'avait pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de récolter ses os, parce qu'on récoltait les os aussi finalement quand il y avait besoin d'une nouvelle sépulture, on pouvait le laisser plusieurs années éventuellement. Et ce personnage-là avait été enterré avec des richesses assez considérables, des pierres précieuses, beaucoup de pierres précieuses, de bijoux précieux. Bon, on avait donc affaire ici à une tombe de riches, manifestement. Quand on a fouillé un petit peu plus, on a trouvé des ossuaires et les noms des personnages enterrés. Et alors, il y avait, par exemple, cette expression « Paltia, fils de Paltia ». Paltia, Paltiaou, n'est-ce pas, ça veut dire littéralement le protégé de Dieu, ou bien le réfugié, celui que Dieu met à l'abri, en quelque sorte. Hein. Et c'est une famille qui est très connue. C'est un nom qui est connu par le Talmud en particulier. Dans le Talmud, nous savons qu'il y avait une famille de prêtres qui portait ce nom de famille de Paltiaou. Et à l'époque du Talmud, c'est-à-dire donc après la destruction du temple, du deuxième temple cette fois-ci, nous entendons parler de membres de cette famille de prêtres à Jéricho. Jéricho était leur lieu de résidence à l'époque du deuxième temple. Bon. Or, manifestement, ici, cette famille dont il est question dans le Talmud est la même que celle qui était enterrée dans cette tombe-là. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, si vous voulez. On a découvert, au cou de ce squelette, deux petits rouleaux d'argent. Alors ça, c'était quelque chose, c'était une première en archéologie, la découverte de ces rouleaux d'argent. Bon, évidemment, ces rouleaux d'argent, on a pu dater avec précision la tombe, grâce à la poterie, n'est-ce pas? Ça, c'est une technique en archéologie qui est très facile, beaucoup plus certaine que le carbone 14. Donc, on savait qu'on avait ici affaire un roi épouvantable, qui avait régné d'ailleurs très longtemps, un très très long règne, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Et, ces rouleaux d'argent étaient quelque chose de très important. Alors, dérouler ces rouleaux d'argent, il n'en était pas question, parce qu'en essayant de les dérouler, évidemment, on les aurait cassés. Alors, on a confié ces rouleaux d'argent à un laboratoire spécialisé qui ont mis au point des techniques très, très sophistiquées, très pointues pour essayer de dérouler ces rouleaux d'argent. On les a laissés tremper pendant plusieurs mois dans des solutions spéciales pour attendrir l'argent, pour qu'à un certain moment, ils redeviennent souples et puis qu'on puisse ouvrir ces rouleaux d'argent, n'est-ce pas? Et finalement, après plusieurs mois, donc, on a pu le faire. Et alors, la surprise des archéologues a été très grande, dans ce sens que sur ces rouleaux d'argent, il y avait écrit la fameuse bénédiction des prêtres qu'on trouve dans le livre des Nombres. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te soit favorable, etc. » Deux versions, n'est-ce pas, de cette même bénédiction des prêtres qu'on trouve dans le livre du Théronome. Alors là, nous, on était sûrs de la datation, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils étaient écrits, d'ailleurs, entre parenthèses, ils étaient écrits dans l'alphabet ancien, pas dans l'alphabet carré, mais dans l'alphabet syrophénicien, n'est-ce pas, qui était en usage essentiellement, même s'il y a des exceptions comme celui de Shemna Asher Agabat, à la Baït, n'est-ce pas. Donc ici, il était écrit en hébreu ancien. Et le texte en question était le même que celui que nous avons dans la Bible actuelle, quoi, dans le texte massorétique qui, lui, date du Moyen-Âge, comme nous l'avons vu. Ça voulait dire, si vous voulez, que là, nous avions une preuve extraordinaire selon laquelle, justement, pour les critiques, ce texte est un texte qui appartient au document sacerdotal. Ça veut dire qu'il aurait été écrit selon eux au 3e siècle avant Jésus-Christ. Or, on est sûr maintenant qu'il datait du 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc tous ces messieurs, les critiques, pouvaient aller se rhabiller. Hein. Et par conséquent, nous avons ici un texte qui était identique. Parfois, il y avait dans un des deux rouleaux d'argent, le texte était un petit peu abrégé. Donc il y avait, semble-t-il, à cette époque-là, deux versions différentes de la bénédiction des prêtres qui circulaient. Il y avait une version qui est celle que nous avons dans nos Bibles, puis il y avait une version qui est abrégée. Mais était abrégée, elle n'était pas différente, si vous voulez, de celle que nous avons dans les Bibles. Alors ça, c'est une des découvertes les plus extraordinaires qui a été faite sur le plan de l'archéologie biblique pendant ces dernières années. Alors voilà, en gros, si vous voulez, quelles sont les inscriptions que nous avons aujourd'hui de l'époque biblique découverte en Israël, de l'époque biblique proprement dite. Je ne parle pas des documents de la Mer Morte qui appartiennent, eux, au Deuxième Temple, c'est l'époque du Nouveau Testament, mais l'époque de l'Ancien Testament, ce sont toutes les inscriptions que nous avons là. C'est peu, voyez-vous, c'est peu. Et en même temps, c'est beaucoup, parce que la plupart de ces découvertes-là confirment, en fin de compte, le texte biblique et apportent des lumières sur, finalement, ce que la Bible ne nous dit pas, parce que la Bible n'a pas été écrite directement pour nous, elle a été écrite pour des gens qui connaissaient ces événements-là, qui les avaient vécus. Et précisément, des découvertes de ce type-là nous permettent, nous, de nous refamiliariser avec ce qui était une évidence pour les gens de l'époque de la Bible. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire sur ce point-là. Est-ce que vous auriez éventuellement des questions là-dessus?
Je n'ai pas bien compris le bassin de Siloé, la construction, je ne sais pas trop.
Bassin Siloué. Bon, alors il faudrait que je fasse un schéma si j'avais un tableau, malheureusement. À l'est de Jérusalem, de la montagne de l'Ophel, ce qu'on appelle la montagne de l'Ophel, au sud du temple, tu vois le temple, la mosquée. Bon, au sud, tu as une espèce d'éperon rocheux comme ça sur lequel est construit un village arabe qui est en pente comme ça. On descend, il y a une route depuis la porte du fumier qui descend là. Il y a un parking d'autobus sur la droite. Hein, et puis ensuite on descend à Siloué proprement dit. Puis tu as une vallée, tu as la vallée du Cédron qui se continue là. Et de l'autre côté, tu as un village arabe sur la pente de l'autre colline qui est le village de Siloué actuel, qui s'appelle Siloué encore en arabe. Hein. Et tu as donc la grande terrasse là qui descend donc en direction de la vallée du Cédron, au bas de laquelle tu as les tombeaux dont on parlait tout à l'heure, le tombeau de Zacharie, le tombeau d'Absalom, etc. Et puis, tout à fait à l'extrémité, tu as la source de Gihon. Cette source était la seule source qui permettait d'alimenter Jérusalem en eau depuis l'époque de Melchizedek, à l'époque où Jérusalem a été fondée, jusque justement l'époque d'Ézéchias. C'est Ézéchias qui a construit le fameux tunnel. Hein. Bon. Alors, si tu veux, en cas de siège, c'était extrêmement facile de bloquer cette source. Et puis, en quelques jours, Jérusalem était sur les genoux. Les gens devaient se rendre parce qu'il manquait d'eau. Bon. Alors, pour résoudre ce problème-là, il y avait deux solutions. Il y avait la solution qui avait été celle des Jébusiens. Les Jébusiens avaient construit le fameux Tsinor qu'on voit maintenant, que le professeur Chilot a découvert et que tu as certainement visité, qui est alors une espèce de tunnel creusé à flanc de la colline qui descend comme ça en pente douce jusqu'à l'aplomb de la fontaine. D'accord ? Et à l'aplomb de la fontaine, un puits vertical d'une trentaine de mètres qui descend juste au-dessus de l'eau, quoi. Bon. Alors, en cas de siège, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on amenait là donc, des gars qui descendaient donc, en dehors des murailles, parce qu'on sort des murailles à ce moment-là, mais sous terre, donc automatiquement à l'abri de l'ennemi. Et puis, à l'aplomb de la fontaine, qu'est-ce qu'on faisait ? Soit qu'on descendait des seaux, soit qu'on descendait un gars qui remplissait des seaux en bas. Puis on le remontait ensuite avec une corde. Maintenant, si l'ennemi découvrait le stratagème, le puits à pic de 30 mètres de haut l'empêchait de grimper. Donc, de toute façon, l'ennemi ne pouvait pas pénétrer dans la place par cet endroit-là. Justement, c'est ce que croyaient les Jébusiens. Par contre, Joab, lui, a réussi cet exploit extraordinaire d'escalader ce puits à pic. Hein ? Et il a fallu faire venir des alpinistes chevronnés avec des toutes les techniques modernes pour pouvoir renouveler l'exploit de Joab. C'était un véritable exploit. On sait aujourd'hui que c'était un véritable exploit que cette escalade de Joab et de ses hommes. Alors, ils sont rentrés alors que les Jébusiens disaient c'est inviolable. Jamais personne ne réussira, surtout que c'est une cheminée étroite. Hein. Jamais personne ne réussira à pénétrer par là. Alors ils ont remonté ces 30 mètres là, puis à partir de là ils ont remonté le tunnel, ils sont rentrés dans la ville pendant que tout le monde dormait, ils ont ouvert les portes à leurs copains qui attendaient à l'extérieur, et puis ils ont pénétré dans la ville, ils l'ont prise comme ça. C'est comme ça que Jérusalem a été prise, Jébus a été prise. Bon, alors ça c'est une solution, c'est une technique. Maintenant, il y a une autre technique qui était celle justement d'Ézéchias qui consistait à boucher, si tu veux, l'accès extérieur de la fontaine par un mur pour empêcher l'ennemi d'occuper cette fontaine, parce que tu pouvais faire une autre chose, si tu veux, tu pouvais mettre une garnison en permanence dans la fontaine, et puis, si tu veux, dès qu'un gars descendait par la corde pour prendre de l'eau, ben, il suffisait de le cueillir à l'arrivée, puis c'était fini, puis on ne pouvait plus se ravitailler en eau. Hein. Donc ça, c'était un problème. Alors, qu'est-ce qu'a fait Ézéchias ? Il a muré complètement l'entrée extérieure de la fontaine, et puis il a détourné, donc il a creusé un tunnel qui amenait l'eau à l'intérieur de la ville directement. Pour une autre raison aussi, non seulement pour une raison de sécurité, mais parce que la population de Jérusalem à cette époque-là s'était considérablement accrue. Donc si tu veux, la corvée d'eau que pouvait faire un ou deux gars qui venaient chercher tous les matins de l'eau dans la fontaine par le système en question de la corde, ne permettait pas d'alimenter, si tu veux, suffisamment tous les habitants de Jérusalem. Alors, ce qu'a fait Ézéchias, il a fait rentrer directement par ce tunnel l'eau, il l'a déversée dans une piscine, dans une espèce de bassin qui était à l'intérieur de la ville, où n'importe qui, toutes les femmes, pouvaient venir à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des murailles, puiser de l'eau tous les matins, comme elles l'auraient fait en temps de paix. Donc ça permettait une alimentation en eau beaucoup plus facile de Jérusalem que, si tu veux, par l'ancien système. Voilà, c'était comme ça.
C'est le tunnel
des Écasses. Alors, à l'arrivée, il arrivait dans ce bassin de Siloé, là, qu'on voit encore. Autre question ?
Et le tunnel a été percé
par les deux bouts.
Et
se sont rejoints pile.
Et au niveau des techniques, on
ne sait pas. On ne sait pas comment ils ont fait. Il faut qu'ils fassent des calculs mathématiques extraordinaires pour arriver à ça. On n'est pas certain qu'aujourd'hui, on arriverait à faire un truc pareil. Pourquoi d'ailleurs il fait un double S, on ne sait pas. Hein? Pourquoi ils n'ont pas creusé droit? Est-ce qu'ils voulaient éviter des tombeaux des rois, par exemple? Ça a été une hypothèse avancée, mais elle est à peu près abandonnée, cette hypothèse-là, aujourd'hui. Finalement, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ce double S-là. L'énigme du problème du tunnel de Siloé est entière encore à ce niveau-là, tant sur le plan des techniques employées que les raisons pour lesquelles ils ont fait ce double S, se compliquant l'existence considérablement. Ouais. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là-dessus.